marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Victor, l'enfant sauvage.
Citoyen, j'apprends par les journaux qu'il a été trouvé dans les bois de votre département un jeune homme qui ne sait que pousser des cris confus et ne parle aucune langue. Si le fait est exact et si vous n'avez point d'espoir de découvrir les parents de cet infortuné, je le réclame et vous prie de me l'adresser sans délai. Salut et fraternité, Lucien Bonaparte.
Ce n'est certes pas le premier enfant sauvage qui ait piqué la curiosité. Depuis la Renaissance, beaucoup ont jailli des taillis, nus, hirsutes, interrogeant par leur étrangeté l'énigmatique parenté entre les humains et les vivants. Victor a cependant cette particularité qu'il suscita une expérience d'éducation documentée, que l'intérêt pour lui dura près de 10 ans et que son nom fait encore écho aujourd'hui. François Truffaut lui consacra un film en 1969. Le jeune acteur qui interprétait Victor, Jean-Pierre Cargol, inspira une statue qu'on peut encore voir en Aveyron, non loin de l'endroit où l'enfant fut récupéré en 1799. Nous étions peu après le 18 Brumaire, au tout début du consulat. Le cas de Victor est intéressant aussi parce qu'il s'inscrit dans le moment 1800. Les milieux scientifiques issus des Lumières baignaient encore dans le climat de la Révolution. On avait répété des années durant que les individus étaient tous issus de la même espèce et donc promis à l'éducation, à la progression, à la régénération. Il était prévisible qu'un médecin moderne s'intéresse à Victor. Ce fut le docteur Itard que François Truffaut tiendra à interpréter lui-même dans son film. Mais cet enfant sauvage apparaît précisément au moment où beaucoup de Français attendent d'un homme providentiel qu'il remette de l'ordre. Comment faire une place à Victor dans l'humanité commune alors que Napoléon cherche à rétablir de manière stricte les rangs entre les personnes ? Il est difficile a posteriori de mesurer la marge de progression qu'aurait pu enregistrer Victor. C'est une question pour les pédagogues. Les historiens, eux, peuvent se demander s'il tomba au meilleur moment en survenant dans un régime qui remettait chacun dans sa chacunière, rétablissait les étiquettes et même l'esclavage.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Luc Chappet, bonjour.
Bonjour.
Chez Fayard, une histoire politique de Victor de l'Aveyron. Parce que vos sujets de prédilection, c'est l'histoire culturelle et l'histoire politique. À la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, il y a eu tellement d'interprétations pédagogiques, psychanalytiques, médicales de Victor qu'on n'a pas beaucoup fait le travail sur l'interprétation politique.
J'ai voulu voir en Victor un révélateur des transformations lentes, progressives, qui ont pu se produire pendant ce moment 1800, caractérisé en particulier par un changement de régime assez brutal entre une république qui se veut l'héritière de la Révolution et un régime, l'Empire, qui cherche en effet à ramener l'ordre et à fermer ce livre de la Révolution, comme le disait Bonaparte.
Le livre de la Révolution, on va commencer par quelques généralités. On va faire constamment dans cette émission l'aller-retour entre la généralité et le cas précis de Victor. Le lendemain de Révolution baigne encore dans le climat des Lumières et les Lumières avaient une certaine vision progressiste de l'homme. Je vous propose d'écouter un instant le philosophe à la barbe fleurie, Gaston Bachelard, qui était aussi un grand historien des sciences et dispensa longtemps des cours sur ce sujet. Ainsi s'exprimait-il.
En ce temps-là, on ne discutait pas sur la réalité du progrès. On ne disait pas que le progrès était un mythe. On travaillait au progrès de l'humanité avec une bonne conscience, avec une pleine conscience. Ainsi, toutes les sciences étaient en progrès manifeste. La confiance dans les bienfaits de la science, dans la valeur philosophique et réelle de la pensée scientifique était totale. La période révolutionnaire fut pour la science une période de féconde activité.
Il y avait des institutions pour cela, donc vous êtes un spécialiste, Jean-Luc Chappet. Puis cette conviction que presque tous avaient eue pendant l'époque des Lumières, sauf peut-être Voltaire et quelques autres, que les hommes appartenaient à la même espèce.
Tout est possible pendant les Lumières, du moins le croit-on, en particulier concernant donc les populations coloniales, mais aussi toute une espèce de populations qui sont considérées à la frange de l'humanité et de l'animalité, en particulier les fameux sourds et muets, de l'abbé de l'épée au XVIIIe siècle, qui va justement considérer qu'il est possible de faire en sorte que ces enfants soient réintégrés dans cette grande famille à travers en particulier le langage et ce fameux langage des signes que l'abbé de l'épée va justement formaliser. Et les sourds-muets qui vont être considérés comme des citoyens à partir de 1789. L'Institut des sourds-muets devenant l'Institut national des sourds-muets.
Oui, parce que les Lumières sont interrogées par cet entre-deux que vous décrivez. Il y a les sourds-muets, il y a les innocents, il y a les imbéciles, il y a les idiots.
Il y a les aliénés également, il y a toute une frange de les populations qui sont pas forcément des populations invisibles, mais qui justement à partir de 1789 vont poser un certain nombre de problèmes qui vont être l'objet de débats et qui vont faire l'objet de travaux. Les sourds-muets à travers cet institut national dirigé par l'abbé Sicard, mais aussi les fous, les aliénés à travers les hôpitaux de la Salpêtrière de Bicêtre autour de Philippe Pinel.
Philippe Pinel, c'est un nom qu'on retrouvera dans le parcours de l'enfant sauvage, qui a commencé peut-être en 1788 ou 1789, c'est sans doute sa date de naissance. On l'avait repéré dans l'Aveyron dès 1798, on l'avait même capturé une première fois. Et en 1799, c'est lui qui va librement dans une maison, dans un village.
Alors c'est assez compliqué en fait, il est en effet capturé plusieurs fois et en 1799, les autorités commencent à s'intéresser à lui, c'est-à-dire le maire décide de le garder. C'est assez intéressant de voir que c'est quelques semaines après le coup d'état de Brumaire que les autorités commencent à s'intéresser à cet enfant qui va très rapidement devenir un enfant sauvage.
L'hospice de Saint-Affrique est content de l'avoir un moment. Un érudit scientifique de Rodez, le docteur, Monsieur Bonnater, est content de l'avoir un moment. Ça veut parler de Rodez, de Saint-Affrique et de l'Aveyron. Mais Paris, on a entendu le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, en exergue de cette émission, le réclame. Et il monte lentement jusqu'à la capitale, où il arrive le 6 août 1800.
Taille 1m39. Je dois avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Le visage ovale. Yeux noirs. Des cils, des paupières longs. Cheveux bruns. Menton arrondi. Bouche moyenne, langue normale, bien détachée, dentition normale. Bref, à l'extérieur, rien ne le distingue. Vous avez vu? Il n'a pas réagi.
Asseyez le dos à la
porte. Je vais faire un essai.
Bien.
Il est sourd.
On est dans le film de François Truffaut, sur lequel on reviendra régulièrement dans cette émission. Il est sourd.
Peut-être.
Mais en tout cas, on l'installe à l'Institut National des Sourds-Muets. C'est peut-être l'intérêt d'ailleurs de l'Institut National des Sourds-Muets que de récupérer l'enfant.
Comme vous l'avez dit, il fait l'objet d'une véritable concurrence. Tout le monde veut s'emparer de cet enfant sauvage et donc chacun va définir la sauvagerie comme il l'entend. Même certains le traitent d'imposteur. Mais ce qui est clair, c'est que très rapidement, on va considérer que c'est un enfant sourd et muet. Et donc, il va être confié à l'abbé Sicard et donc logé à l'Institut National des Sourds et Muets.
Rue Saint-Jacques.
Rue Saint-Jacques.
C'est là que va venir l'examiner Philippe Pinel, l'aliéniste dont vous parliez tout à l'heure. Alors ça, c'est un grand médecin scientifique de la meilleure eau révolutionnaire.
C'est même la plus grande personnalité savante de cette République du Directoire. Il est véritablement érigé en héros. Il ne faut pas oublier que Philippe Pinel avait inventé ce qu'on appelait à l'époque le traitement moral. C'est-à-dire, c'est le premier à dire qu'il est possible de soigner un fou. Le fou n'est pas irrémédiablement fou. Et c'est donc vers lui qu'on va se tourner.
Il a désenchaîné les fous avec l'aide de son premier infirmier.
Voilà, avec Poussin en 1793 à la Salpêtrière. Et Pinel va avoir un jugement implacable, puisque pour lui, l'enfant est irrémédiablement idiot.
Parce qu'on rêvait d'avoir un enfant de la nature.
Exactement.
Qu'on allait pouvoir remodeler. Et c'est un enfant qui aurait, de nature, une lésion, quelque part.
Voilà, Pinel va, justement, à partir de la description qui a été faite tout à l'heure, va observer l'enfant et va découvrir que l'enfant a en particulier une très grande cicatrice à la gorge. Il va parler des lésions physiologiques et donc considérer qu'il est impossible de soigner l'enfant.
Dans L'Enfant sauvage, 1969, de François Truffaut, Truffaut va incarner un jeune médecin clinicien qui refusera le diagnostic de Pinel. Pinel est interprété par le grand Jean d'Asté.
Écoutez-moi, pour moi c'est un idiot. Je ne vois aucune différence apparente entre lui et les malheureux idiots dont je m'occupe tous les jours à Bicêtre. D'ailleurs, vous devriez venir un jour avec moi, je vous assure.
Je crois que ce serait désastreux de l'envoyer à Bicêtre. Pour moi, ce n'est pas un enfant idiot. C'est simplement un enfant qui a eu l'infortune de passer 6, 7, peut-être 8 années dans la forêt, dans une solitude et un isolement absolu.
En somme, moi, je pense que cet enfant a été abandonné et probablement égorgé par ses parents parce qu'il était anormal. Vous pensez qu'il est devenu anormal à cause de son isolement?
Oui.
Mais alors pourquoi l'a-t-on abandonné?
Simplement parce que c'était un enfant illégitime, un enfant encombrant dont il fallait absolument se débarrasser.
Vous croyez pouvoir faire quelque chose pour lui?
Oui, je voudrais tenter de faire son éducation.
François Truffaut est le jeune docteur Itard. Enfin, il est aussi un peu le père d'Antoine Doinel, ou Antoine Doinel, l'enfant malheureux à qui il faut offrir une chance.
Exactement. Cette confrontation est très intéressante, puisque il faut pas oublier que Pinel est le grand savant républicain. C'est un philanthrope, il cherche justement à favoriser l'accueil de cet enfant, mais pour lui, rien n'est possible. Itard, je dirais, représente, incarne cette nouvelle génération de médecins qui croient encore à un idéal pédagogique. Et Itard va se voir confier l'enfant et tenter une véritable expérience très innovante à l'époque pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tenter non seulement de l'éduquer, mais de le régénérer.
Mais il se voit confier l'enfant grâce aux bons soins d'une société, la Société des Observateurs de l'Homme, dont vous êtes l'unique spécialiste, Jean-Luc Chappet. Elle n'a pas duré beaucoup de temps, mais elle a réuni le meilleur de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'anthropologie.
Voilà, c'est un contexte assez fascinant à ce moment-là, où on s'intéresse à tous les sauvages, qu'ils soient des sauvages de l'intérieur ou sauvages de l'extérieur. Il faut savoir que là, on cristallise en quelque sorte toutes les attentes autour de ces sauvages qui méritent d'être observés, étudiés, pour mieux comprendre justement les sociétés contemporaines. Et nous sommes, je dirais, dans cette société profondément transformée par la Révolution. Pour travailler sur les sauvages, c'est tenter justement de rétablir en quelque sorte les fondements de la société.
Intermède, mais vous allez voir que ce n'est pas Jean-Luc Chappet, un interlude. Les enfants sauvages, une liste en avait été tentée dans un livre qu'a lu François Truffaut, parce que ce livre contenait aussi les notes prises pendant la période d'éducation de Victor par le docteur Itard. Ce livre s'appelait « Les enfants sauvages ». C'était un livre de Lucien Malson. Et alors un auditeur, l'autre jour, après l'hommage que nous avons rendu à Jean-Christophe Averty, me dit « Mais Lucien Malson, il a quand même travaillé 40 ans pour les émissions de jazz de Radio France. La dernière en date, c'était Black and Blue, mais il a aussi été, pas seulement sur France Culture ou Musique, mais sur France Inter, il a fondé le bureau du jazz. C'était un homme à partie double, parce que c'était aussi un professeur d'éducateur.
C'était un musicologue, professeur, un pédagogue, qui s'est intéressé, un des premiers à s'être intéressé, non seulement aux enfants sauvages, mais aux méthodes pédagogiques d'Itard. Et il a en effet écrit un livre qui reste encore une grande référence.
Qui est réédité régulièrement. Et puis il a tenu une sorte de bureau du jazz, c'est le mot qu'il employait, à Radio France. Hommage donc à Malson.
Ici Juan Lépin. Dans le cadre de l'émission quotidienne Jazz dans la nuit, Lucien Malson et André Francis présentent Jazz 63, en direct du festival organisé par la municipalité d'Antibes et la radiodiffusion télévision française.
De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Miles Davis, le nom de Lucien Malson restera. Il est mort le 27 janvier 2017, notamment à cause de son livre sur les enfants sauvages, à qui vous devez beaucoup, Jean-Luc Chappet. Mais racontez-nous quand même comment se passe l'éducation. Il n'est pas tout seul, le docteur Itard, à s'occuper.
Alors, il n'est pas tout seul. Il y a en effet une préceptrice avec lui, hein, une certaine Madame Guérin.
Enfin, vous l'appelez préceptrice, mais c'est pour l'administration une nourrice.
Une nourrice, mais qui va jouer un rôle important. Il ne faut pas oublier que Itard n'est pas tout seul. Alors, Itard va s'appuyer sur, je l'ai dit tout à l'heure, des techniques, des modalités en quelque sorte pédagogiques assez innovantes. Hein. Les jeux, les automates, la musique, qui justement vont être mobilisés pour tenter de capter l'attention de cet enfant et progressivement lui apprendre à parler. Il faut absolument lui apprendre à communiquer comme on l'a entendu dans le film tout à l'heure. Pour Itard, l'enfant est comme il est parce qu'il a été isolé. Donc il faut rompre cet isolement et donc utiliser toutes les techniques possibles. Et naturellement, Madame Guérin va jouer un rôle important parce qu'elle va suivre au quotidien l'enfant, le promenant, l'emmenant faire des visites, etc. Et à travers, justement, cette socialisation progressive, il serait possible, eh bien, de l'éduquer.
Alors, vous faites, on y reviendra, une approche politique du cas Victor, mais les psychanalystes disent que si on avait laissé davantage de place à Madame Guérin, ça se serait peut-être mieux passé. Alors, voilà le duo, François Truffaut et Madame Guérin. Madame Guérin, c'est Françoise Seignier elle-même, dans le film L'Enfant Sauvage. On a bu de l'eau ensemble et maintenant, on est autour d'un bol de lait.
Vous avez vu ?
Bah oui, il a cassé son bol l'autre jour. Alors il a pensé que vous ne lui donneriez plus de lait. Il a amené son écuelle. Attendez, Madame Guérin, vous allez me demander du lait devant lui. Viens, Victor, viens.
Je voudrais du lait. Lait.
Voilà, Madame Guérin, voilà du lait. Non, Victor, non. Faut le demander. Non. Madame Guérin, je voudrais du lait.
Bien.
Merci, Madame Guérin.
Lait. 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 Lait.
Merci, lui, quand même.
Victoire acquise, je pense, grâce à l'affection de Madame Guérin. Ça y est, il dit le mot lait. Alors, exactement. Ce serait un triomphe s'il demandait du lait quand il a besoin de lait.
L'idée étant qu'il puisse communiquer tout seul, hein, c'est-à-dire acquérir cette autonomie sur laquelle, justement, Itard comptait tant.
Et qu'est-ce qu'on sait d'autre de ces progrès ? J'ai lu qu'il savait aider à la cuisine.
Alors il participait en effet à des tâches quotidiennes. Hein. Il parfois raccompagnait le visiteur en tendant les manteaux, participait en effet à la cuisine. Il parvenait même à parfois jouer tout seul. Hein. Donc ça, c'était autant de signes qui permettaient à Itard de poursuivre son entreprise. Il ne faut pas oublier non plus que Itard l'emmenait également à de très nombreuses visites. Hein. C'était devenu en quelque sorte une personnalité à la mode, ce Victor. Il était intégré à certains salons.
Hein. Vous racontez une visite qui deviendra assez vite un désastre, mais que vous pouvez narrer en détail, chez Madame Récamier.
Madame Récamier, donc une grande salonnière de ces années 1800, hein, qui en effet s'intéressait à ce phénomène extraordinaire. Il faut savoir que Victor était l'objet de pièces de théâtre, de romans, de chansons, donc tout le monde cherchait à l'avoir chez lui. Et c'est vrai qu'en 1802, il va aller chez Madame Récamier, mais créer beaucoup plus de désordre par
ses
frasques.
Elle le reçoit dans sa maison de campagne, elle le regarde tendrement. Tout le monde est sensible en principe au regard de Madame Récamier, lui pas tellement.
Pas du tout. Hein, c'est-à-dire que lui il était complètement. D'ailleurs, à un moment donné, il va prendre la fuite. Mais très souvent, il perturbait.
Il se déshabille, il grimpe aux arbres.
Voilà, exactement.
Vous imaginez le spectacle.
Exactement. Donc c'était plutôt là un objet de scandale.
Peu à peu, quand même, on a l'impression qu'une sorte de palier justement est atteint.
Alors c'est ce qui est révélé particulièrement à la lecture des rapports d'Itard, hein, qui à partir de 1804-1805 se montre en effet de plus en plus déçu. Il dit lui-même hein, qu'il ne parvient pas à faire franchir en quelque sorte ces paliers, en particulier au niveau de la communication. Et progressivement, à partir de 1806-1807, on voit Itard en quelque sorte sombrer dans une sorte de doute et désabusé.
Les rapports lui sont demandés par qui ?
Par le ministre de l'Intérieur, il faut pas oublier que pour justement accueillir l'enfant à l'Institut National des Sourds et Muets, eh bien, le ministre paye une pension hein, à Itard, mais aussi à Madame Guérin, et paye une pension à l'enfant. Et donc, il y a des rapports progressivement qui sont demandés, et on voit comment le ton de Itard, au début très optimiste, je dirais dans la continuité de cet idéal des Lumières, progressivement se transforme, et Itard lui-même en vient à dire qu'il serait impossible d'éduquer l'enfant.
Alors, dernier rapport en date, je crois que c'est 1807, nous sommes toujours dans le film de François Truffaut qui, quand même, vous allez le voir, cherche un happy end.
Je puis affirmer à son Excellence qu'il était arrivé à posséder le libre exercice de tous ses sens. Il donnait des preuves continuelles d'attention, de réminiscence, de mémoire. Il pouvait comparer, discerner et juger, appliquer enfin toutes les facultés de son entendement à des objets relatifs à son instruction. Cet enfant de la forêt avait réussi à supporter le séjour de nos appartements et tous ces changements heureux étaient survenus dans le court espace de 9 mois.
Madame Guérin ! Madame Guérin ! Regardez, Victor est revenu.
Qui l'a ramené ?
Personne, il est revenu lui-même.
C'est mon garçon. Mon garçon, qui est revenu tout seul. Tu es tout déchiré. Mais enfin, tu es là.
Content, Victor. Tu es revenu chez toi. Tu comprends ? Tu es chez toi. Tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Victor, tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances.
Le docteur Itard, dans le film de Truffaut, parlait à l'imparfait de Victor parce que celui-ci s'échappait. Il lui parle au futur, tu es un jeune homme des grandes espérances. C'est un happy end pour le public de ce film des années 70, nous autres, les professeurs, voilà, les éducateurs, on croyait à la perfectibilité.
Voilà, ça ne se passe pas ainsi. Hein. En effet, à partir de 1807, le ministre de l'Intérieur va continuer à confier l'enfant, donc à payer une pension à Mme Guérin, mais Itard cesse de s'en occuper et finalement l'entreprise pédagogique cesse à partir de 1807.
Enfin, il reste Madame Guérin.
Alors reste Madame Guérin, mais qui ne s'en occupe pas véritablement, au sens de, elle ne l'éduque pas véritablement. On ne sait pas. Hein. C'est très compliqué à ce moment-là. L'enfant disparaît complètement des archives. On ne sait rien jusqu'au début des années 1820, hein, au moment où il meurt. On ne sait rien de ce qui se passe. Donc,
mais il est avec Madame
Guérin.
Mais il y aurait un livre superbe à faire sur les dernières années, Madame Guérin et Victor.
Il y a eu énormément de romans, beaucoup de choses qui ont été écrites, mais on n'a aucune source, aucune archive.
Et en fait, de grandes espérances, il va être jeté à sa mort à la fosse commune.
Exactement.
Et alors le docteur Itard, qu'est-ce qu'il devient, lui ?
Alors lui poursuit une carrière hein, très très brillante, comme justement orthophoniste, hein, c'est un des premiers justement à opérer les sourds et muets, et Moi, ce que je veux voir dans cette histoire, et d'où l'histoire un peu politique, c'est de faire de Victor et de ce cas, de cet échec, en quelque sorte un révélateur de ce qui se passe à ce moment-là sous l'Empire.
Hein, parce que qu'est-ce qu'il a comme méthode maintenant, le docteur Itard, une fois qu'il a un peu oublié la pédagogie, la douceur? Parce que vous dites qu'il est très énergique.
Il est très énergique, il va en effet,
il
cherche à opérer les enfants. Donc là, ouais. c'est une nouvelle approche. Hein, là, on ne soigne plus les enfants par le moral, comme on le disait à l'époque, mais par le physique. Et en fait, le regard porté sur tous ces sauvages tend à changer. À partir de 1807, on considère que les populations lointaines ne sont plus, je dirais, des modèles pour les hommes civilisés, mais sont irrémédiablement et naturellement, en quelque sorte, inférieurs aux hommes européens.
Alors là, on monte en généralité, comme on l'a fait parfois dans cette émission avec vous, Jean-Luc Chappet, les gens des Lumières. Ils imaginaient l'humanité comme une monogénèse, une seule espèce. Et c'est une époque où commence à naître l'idée d'une polygénèse. C'est-à-dire qu'il y a des espèces radicalement
Exactement.
Différentes et étanches.
Et là, c'est une vraie rupture par rapport à tout un ensemble d'idéaux, des Lumières, mais aussi de la Révolution française. C'est considérer finalement que tous les gens dans cette société fonctionnent ensemble et que cette société peut être fluide. Poreuse. C'est l'idée que, eh bien, on peut intégrer les enfants, les femmes, les populations noires à cette même grande famille. À partir de 1804, 1807, justement, on voit renaître tout un ensemble de frontières dites infranchissables entre les sexes, entre les races, entre les milieux professionnels. Et à ce titre, eh bien, le parcours de Victor de l'Aveyron m'apparaît comme, justement, représentatif de cette rupture entre les idéaux de la République et la mise en ordre de l'Empire.
Il est rejeté dans les rangs des idiots, de même que les Noirs sont remis en esclavage à partir de 1802.
Voilà, et puis vous avez le code civil qui va justement imposer cette idée d'une femme, par exemple, qui est une mère de famille. On repense en termes de nature, d'identité fixe. Et c'est à ce point-là qu'il y a bien un basculement. Il ne faut pas oublier que les derniers savants à s'intéresser à Itard sont les fondateurs de ce qu'on va appeler plus tard la craniométrie, c'est-à-dire les phrénologues Gall et Spurzheim qui arrivent à Paris et qui vont ausculter le crâne de Victor et dire à partir de là qu'il n'y a rien à faire parce que justement la forme du crâne empêche toute forme d'optimisme.
Oui, la mesure est déterminante, voilà. Il n'y a pas d'espérance possible. Mais moi j'entends souvent proclamer que l'Empire c'est une période qui permet la mobilité. Vous savez, le soldat a son bâton de maréchal dans sa giberne.
Alors toute la société n'est pas en effet fixe, mais ça commence à se réduire et c'est vrai que les seuls à pouvoir, je dirais, avoir des espoirs de progression restent les soldats de cette fameuse grande armée sur laquelle justement Napoléon Bonaparte va construire son mythe et sa mythologie. Pour les autres, ça devient plus compliqué. On recrée une véritable barrière entre les élites et le peuple. Alors, naturellement, il y a une véritable modernité de cet empire. On va créer les fameux lycées, etc., la Légion d'honneur. Mais on voit qu'à travers la renaissance de tous ces symboles, en quelque sorte, eh bien, on cherche à reconstituer, en quelque sorte, la société d'Ancien Régime, où chacun était à une place et avait peu d'espoir d'en changer.
Donc, au fond, il y a la mobilité par la guerre, ou bien, j'essaye de tirer une leçon de votre livre, la mobilité par l'éducation.
Alors il y aurait en effet cette mobilité par l'éducation, ça s'oppose et c'est justement cette opposition que j'essaie de montrer et qui joue entre bien la République et l'Empire.
Une histoire politique de Victor de l'Aveyron, c'est un livre de Jean-Luc Chappet aux éditions Fayard. L'émission a été préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, à la réalisation Valérie Aestaraille. La technique, c'était Florent Beauvalet.